Voilà, alors nous allons continuer notre lecture de la première épître aux Thessaloniciens. Thessalonique, cette ville de Macédoine, au nord de la Grèce, ville qui existe toujours, et que Paul a évangélisée avec ses compagnons au cours de son deuxième voyage missionnaire. On va lire tout le deuxième chapitre. Je lis dans la version du Semeur. Vous-même, frères, vous le savez aussi. L'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, une autre ville de Macédoine que Paul avait évangélisée, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle qui vient de lui. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des motifs malhonnêtes, ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile, et nous l'annonçons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise. Tout en travaillant de nos mains jour et nuit, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume de gloire. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui appartiennent à Jésus-Christ. Car vous aussi, vous avez souffert, de la part de vos compatriotes, les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont persécutés nous-mêmes. Ils ne se soucient nullement de plaire à Dieu et se montrent ennemis de tous les hommes. Ils essaient en effet de nous empêcher d'annoncer aux non-juifs la parole qui leur apporte le salut, et ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont sans cesse commis. Aussi, la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. En ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous. Moi, Paul, je l'ai tenté, a eu les mêmes deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Alors le sujet principal de ce chapitre 2 est annoncé dans le verset 2. Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de lui. C'est le grand sujet de satisfaction et de reconnaissance de Paul envers Dieu concernant son travail en faveur des chrétiens de l'Église de Thessalonique. Paul rappelle aux Thessaloniciens comment lui et son équipe se sont comportés parmi ces jeunes convertis de Thessalonique Et on peut se demander pourquoi il tient à justifier son ministère et celui de ses collaborateurs avec autant d'insistance. Vous avez remarqué à quel point il insiste sur ce qui marque son ministère. C'est parce que Paul nous donne dans ce texte, je pense, la charte de l'éthique du leader selon le cœur de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé cette diapo que vous avez sous les yeux « La charte du vrai leader spirituel » ou du vrai conducteur. Leader, c'est le mot anglais, hein, conducteur en français. Les sujets qu'aborde Paul dans sa lettre nous permettent de nous faire une idée de l'ambiance spirituelle de cette région de la Macédoine. Au verset 3, je le lis dans la version second 21, « En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. » Alors, premier point de la charte éthique du leader spirituel. Son discours s'adresse au cœur de ses auditeurs. Le mot que Paul utilise aussi dans nos Bibles, qui est traduit dans nos Bibles par prédication, en grec c'est le mot paraklésis, qui évoque une parole d'exhortation, d'encouragement, d'appel. Ce n'est pas de la simple information. Et c'est ce que devrait toujours être une prédication, un discours qui s'adresse au cœur. D'ailleurs, on retrouve dans ce mot de paraklésis, le mot paraclé. Vous savez, paraclé, c'est le Saint-Esprit, celui qui exhorte, celui qui encourage. Voilà, une prédication d'un vrai leader spirituel, c'est ça, qui exhorte, qui encourage. Le deuxième point de la charte éthique du leader spirituel, c'est une prédication pure. Paul déclare que sa prédication n'a pas reposé sur trois choses qu'il va décrire, hein, ni sur l'erreur, en grec « ek planès ». Planès, c'est un mot que, enfin le verbe « planéo » que Jésus a utilisé quand il parlait à ses contradicteurs qui se moquaient de lui au sujet de la résurrection. Et il disait, mais enfin bon, il raconte une histoire pas possible à Jésus, un homme qui est mort et qui avait épousé plusieurs femmes, etc. Et il disait, dans la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et donc ils avaient une vue très, très terre à terre, hein, de la résurrection, comme si c'était un peu la même vie que la vie sur terre. Et Jésus leur dit, mais vous planez, littéralement. Hein. Ils utilisent le verbe planéo. Ça veut dire, vous êtes complètement dans l'erreur. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Et la puissance de la résurrection. Alors, ce mot planès peut avoir un sens actif, une tromperie, diriger quelqu'un sur une fausse piste. Ou aussi un sens passif, alors c'est tout simplement une hérésie, une erreur. Une hérésie, c'est une déformation grave de la vérité biblique, car elle entraîne le peuple de Dieu dans de fausses croyances. Il y en a eu de nombreuses dans les premiers siècles de l'Église, et on en rencontre encore aujourd'hui. Prenons un exemple, le plus courant de nos jours, hein, sur nos climats en tout cas, la théologie erronée des témoins de Jéhovah. La théologie de cette secte, outre des prédications fantaisistes sur l'avenir, rabaisse de façon insoutenable, inadmissible, la personne du Seigneur Jésus. Selon eux, il n'a pas de statut divin, mais une sorte de statut intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est dramatique. Car cela touche à l'essence même de sa personne et de son œuvre en faveur de notre salut. Mais le mot peut aussi avoir le sens d'une tromperie volontaire, de diriger les gens volontairement sur une fausse piste. Les motifs en sont alors souvent impurs. Exploiter les gens dans un but de domination, voire encore plus grave, pour leur soutirer de l'argent ou même obtenir des faveurs sexuelles. Et on voit cela dans les sectes, hein, comme vous le savez. Ensuite, il dit, ni sur des motifs impurs. Motif impur, c'est akatharsias, ce qui est impur. Le mot utilisé par Paul désigne au premier sens l'impureté sexuelle dont je viens de parler. Ici, il l'utilise probablement dans un sens plus général, pour dire que sa prédication n'était pas motivée par l'ambition, l'orgueil, la cupidité ou la recherche de la popularité. Ce type d'impureté était très répandu dans le milieu païen de l'époque de Paul, mais il l'est aussi de nos jours. Et on voit fleurir ce type de comportement dans diverses sectes et même dans des milieux dits chrétiens, sous l'influence de leaders qui se disent prophètes. Le troisième point de Paul, c'est « ni par la ruse » ou « den dolo ». Dolo, c'est la ruse. Le mot désigne un leurre, un piège, toute forme de stratégie pour piéger. Là, l'intention de nuire est manifeste. Elle vient directement du diable et de ses démons. Beaucoup de gens tombent dans ces pièges d'une spiritualité parée d'atours attrayants pour mieux capturer et asservir ses victimes. Si Paul évoque ces motifs détestables de prédication spirituelle, c'est certainement parce qu'elles abondaient en Macédoine et même dans toute la Grèce de l'époque. Le marché, entre guillemets, de la spiritualité était particulièrement prospère, cherchant à faire des adeptes et surtout à vivre à leurs dépens. Le polythéisme païen traditionnel avait trouvé de nouveaux prédicateurs adeptes de ce qu'on appelle les religions à mystère, prétendant offrir des formes supérieures de spiritualité moyennant une initiation particulière très sélective. Et si Paul parle d'impureté, c'est aussi parce que la prostitution sacrée était un des moyens d'accéder à ces formes supérieures de connaissance ou de spiritualité. Avoir des relations sexuelles avec une prostituée sacrée, dans un temple, voir un prostitué, ça existait aussi, était un moyen d'avoir communion avec ces mystères. Vous voyez un peu l'horreur de ces choses. Alors, ce tableau est un peu extrême, mais soyons conscients que de nos jours, les méthodes des sectes jouent sur les mêmes leviers. Des enseignements erronés très éloignés de l'Évangile et des motifs impurs chez leurs gourous. S'enrichir aux dépens des fidèles et profiter de faveurs sexuelles chez leurs femmes. Le troisième point de la charte éthique du leader spirituel, c'est que sa mission lui vient de Dieu lui-même. Au verset 4, il dit « Si nous invitons les hommes à croire, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous l'annonçons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui juge notre cœur. » Plaire aux hommes. Voilà une séduction puissante pour un prédicateur. Servir une prédication quelque peu édulcorée, aux dépens de la vérité, afin de plaire, de ne pas risquer de choquer ou de froisser. Le même Paul écrit à son élève, si je puis dire, Timothée, en 2 Timothée 4, verset 3, « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, saint S-A-I-N, dans le sens un enseignement propre, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne leur demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » À l'inverse, le vrai prédicateur se soucie de plaire à Dieu parce qu'il sait que c'est lui qui juge son cœur et non pas les auditeurs. C'est à lui aussi qu'il aura à rendre compte. Au verset 5, Paul écrit « Jamais, vous le savez, nous n'avons eu de recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter. » Peut-être que Jean de La Fontaine s'était inspiré de cette phrase de l'Écriture lorsqu'il a écrit « Le corbeau et le renard ». La flatterie est le type même d'un motif impur de prédication. Elle cherche à obtenir des bénéfices secondaires de la part de ceux qui sont ainsi flattés. Verset 6. « Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres, alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. » Paul écrit en 2 Corinthiens 11, au verset 6, « Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. » Il dit ça parce que les Corinthiens, qui étaient très amateurs de beaux discours, trouvaient que Paul avait une parole assez ordinaire. C'est pour ça qu'il dit « Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever ?» En vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises qui m'ont régulièrement envoyé de l'argent pour que j'exerce mon ministère parmi vous. En effet, pendant mon séjour chez vous, je n'étais à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Ce sont des frères venus de Macédoine, donc probablement des Thessaloniciens, aussi des Philippiens, qui ont pourvu à ce qui me manquait. Les Corinthiens avaient ce défaut de mesurer le prestige d'un prédicateur à son éloquence. Nous devons reconnaître que l'éloquence est un avantage qui sert la qualité de transmission d'un message. Mais c'est aussi un piège, car elle peut masquer l'indigence du message lui-même, voire sa fausseté. Les prédicateurs que fustige Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens jouissaient d'un grand prestige du fait de leur éloquence et ils en profitaient pour en tirer des avantages matériels, c'est-à-dire une bonne rémunération pour leurs prestations. Paul s'est toujours gardé de cette tentation, tout en reconnaissant et même en affirmant que l'ouvrier mérite son salaire. À l'inverse de ces prédicateurs de mensonges, intéressés par l'appât du gain, Paul oppose son comportement et celui de ses compagnons d'œuvre. Quatrième point de la charge éthique, de la charte éthique du leader spirituel. Le vrai leader spirituel, selon le cœur de Dieu, prend soin de ses brebis. Dans les versets 7 à 12, Paul évoque les soins qu'ils ont pris des Thessaloniciens comme ceux d'une mère pour ses enfants, qui les nourrit tendrement et veille à ce que rien ne leur manque. Non seulement ils leur ont donné l'Évangile, mais ils se sont donnés eux-mêmes à eux en leur consacrant tout leur temps et toute leur énergie. Et Paul rappelle qu'ils ont travaillé, lui et ses compagnons, de leurs propres mains pour ne pas leur être à charge. Le séjour de Paul et de ses compagnons à Thessalonique a duré au moins 2 mois et ils ont eu le temps d'exercer le métier de Paul, de fabricant de tentes, et donc de vivre financièrement de leur travail. Au verset 10, il écrit « Vous en êtes témoins, et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. » Ces trois qualificatifs s'opposent à ceux qui caractérisent les faux enseignants du verset 3, l'erreur, les motifs malhonnêtes et le désir de tromper. Au verset 11, après avoir évoqué les tendres soins d'une mère, Paul prend maintenant l'image du Père. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard chacun de vous. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Un vrai papa a le souci d'encourager ses enfants et surtout de leur montrer la bonne direction. Là, il s'agit de la manière de vivre, une manière de vivre qui soit digne de Dieu. Nous verrons par la suite, dans cet épître, que des restes de paganisme entachaient la manière de vivre de certains à Thessalonique et que Paul devra les reprendre avec toute l'autorité paternelle d'un apôtre du Christ. Cinquième point de la charte éthique du leader spirituel. Communiquer la pure parole de Dieu. Il écrit au verset 13 « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » La parole apostolique repose sur les enseignements de Jésus et le Saint-Esprit a conduit les écrivains du Nouveau Testament à écrire la parole de Dieu de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi Paul peut dire que la parole qu'il a communiquée aux Thessaloniciens est véritablement la parole de Dieu, et il leur rend grâce de l'avoir accueillie comme telle. Les prédicateurs actuels ne sont que des commentateurs de la parole apostolique, mais ils ont la responsabilité de l'enseigner dans sa pureté. Vous voyez tout de suite l'énorme responsabilité qui pèse sur les épaules des enseignants dans l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse à ses lecteurs cette recommandation, en Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos leaders et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, par leur enseignement entre autres, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Il y a de quoi trembler, n'est-ce pas ? Sixième point, de la charte éthique du leader spirituel, il sait et assume que le chemin dans lequel il engage ses brebis conduit souvent à les exposer à la persécution. C'est ce que Paul dit dans les versets 14 à 16. Vous l'avez montré, vous avez montré que vous avez reçu notre parole comme étant véritablement la parole de Dieu. Frères et sœurs, en suivant l'exemple des églises de Dieu qui sont en Judée. Et là, Paul évoque les persécutions dont elles sont victimes de la part des Juifs opposés à la foi chrétienne. De même, les Thessaloniciens connaissent la persécution, on l'a vu en lisant Actes 17, de la part des Juifs, mais aussi de païens qu'ils ont réussi à entraîner dans leurs méchantes actions contre les prédicateurs chrétiens. Au verset 15 et 16, Paul se livre à une charge indignée contre l'attitude de ces Juifs. Vous avez remarqué, ces versets très forts, hein, précisant qu'ils portent ainsi à leur comble les péchés qu'ils ont toujours commis. Certains commentateurs, théologiens non évangéliques ont dit que Paul était antisémite. Bon, c'est un peu, alors que Paul était juif, donc c'est un peu idiot, hein. Voilà, à cause de ces deux versets-là. Mais il replace cette méchante rébellion dans la perspective divine. Aussi, la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre. C'est vers l'année 50 que cette épître a été rédigée par Paul. Quelques 20 ans plus tard, les armées romaines investiront la Judée et détruiront Jérusalem. Beaucoup de Juifs périront lors de cette attaque et encore plus seront réduits à l'état d'esclaves. Paul prévoit cette catastrophe comme l'effet de la colère de Dieu contre son peuple historique. Il la voit même comme déjà accomplie par le temps qu'il utilise, le temps au point de vue grammatical. Hein. La colère a fini par les atteindre. Le temps s'appelle un aoriste. Il utilise non pas un futur, hein, qu'on aurait pu s'y attendre, mais un aoriste. C'est un temps très commun dans le grec qui voit l'action dans sa totalité comme déjà réalisée. Même si dans la réalité, elle est encore future, mais un futur proche, une vingtaine d'années, pas plus. Septième point, de la charte éthique du leader spirituel, il travaille dans la perspective du retour du Seigneur Jésus. Verset 19, « N'êtes-vous pas en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et la couronne dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue ?» Oui, c'est vous qui êtes notre gloire et notre joie. Cette perspective du retour du Seigneur Jésus sera évoquée de manière plus précise encore au chapitre 4 de cette épître, on le verra, et elle est encore plus développée même dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Cette perspective du retour du Seigneur Jésus devrait, je pense, colorer toute notre vie chrétienne. Nos rassemblements, nos prières, nos louanges, nos rapports les uns avec les autres, notre façon de vivre notre foi, et surtout même les épreuves que nous sommes amenés à traverser durant notre pèlerinage terrestre. Comme il est écrit, je crois, à la fin de l'Apocalypse, « Maranatha, viens, Seigneur Jésus !»